Merci pour cette introduction. Finalement, il faudra payer nos impôts, car la fin du monde annoncée en 2012 par le fameux calendrier Maya n'est pas pour tout de suite. Mais enfin, au passage, cette année est devenue, pour les chrétiens, comme d'ailleurs beaucoup de millésimes auparavant, l'occasion de réfléchir à la question de la fin de l'histoire. Occasion de se ressaisir du fait que, selon le théologien Moltmann, il dit ceci, le christianisme est tout entier eschatologie, la perspective eschatologique n'est pas un aspect du christianisme, elle est à tous égards le milieu de la foi chrétienne. Il n'y a, dit-il, par conséquent, qu'un seul problème réel en théologie chrétienne, c'est le problème de l'avenir. Évidemment, 2000 ans après les événements que nous savons, force est de constater que la perspective de la fin du monde n'enthousiasme plus guère que les cinéphiles et a fini, au fond, par constituer un sujet de crainte plutôt qu'un motif d'espérance. Alors, dans les questions consacrées à la création, la question de l'origine occupe à peu près simultanément celle de l'accomplissement, et cela depuis toujours. Le chapitre de la théologie qui concerne la création est articulé en trois mouvements. La création originalis, qui est la création vue dans la question des origines. La question de la création continua, aussi connue sous l'angle de la théologie de la providence. Et la question de la création nova, également appelée eschatologie. C'est sur ce dernier volet que je voudrais commencer cette intervention en conformité avec le thème de l'Université chrétienne d'été de Castanet sur la fin du monde, les chrétiens et la fin du monde. Ceci étant posé, mon propos sera donc de vous proposer d'inverser la présentation habituelle en présentant en préalable l'idée que la notion du monde nouveau, donc de la création nova, éclaire le mystère de la création et non pas l'inverse. C'est-à-dire, les fins dernières viennent éclairer la question des origines qui permet d'extrapoler la fin. Le théologien américain John Haught dit ceci, il dit « Après Darwin et la nouvelle cosmologie, nous devons dire que Dieu est moins alpha que oméga. » Vous connaissez évidemment le Christ alpha et oméga. Et peut-être que cette dernière lettre de l'alphabet grec a été un petit peu négligée dans une certaine attention portée à la question de l'origine. La thèse principale donc de mon intervention sera que la création, et tout particulièrement la création d'un monde en évolution, un monde en mouvement, le caractère évolutif du monde, la création donc de ce monde en mouvement est un acte eschatologique de Dieu, ou pour employer un deuxième gros mot, et ce sera le seul, un acte proleptique, du grec prolepsis, qui veut dire qui anticipe sur la fin. Et au fond, la thèse et la bonne nouvelle que je voudrais vous partager est que le Dieu de Jésus-Christ est le Dieu de l'avenir et non pas du passé ou de l'éternel présent. C'est le Dieu de l'avenir. Alors pour cela, je présenterai trois parties. Une partie qui couvrira, disons, le caractère, qui s'intéressera au caractère évolutif du monde pour montrer comment ce caractère particulier de la nature nous invite à considérer la question de la fin et en particulier de la finalité. Ensuite, je vous proposerai de relire certains des passages fondateurs de la Bible pour établir ce que j'appelle la question de la promesse originelle. Et enfin, ma troisième partie sera une conclusion christologique sur la notion de creatio ex futuro, la création à partir du futur. Puisqu'il est question de fin du monde, allons-y gaiement. Donc, première partie, le monde est en évolution. Alors, je voudrais souligner un point qui me paraît un peu banal, peut-être, depuis le XIXe siècle, qui est que l'émergence de la complexité, et de l'espèce humaine en particulier, de la pensée, s'est réalisée au terme d'une très longue évolution, de tâtonnements, de reculs, d'échecs, et au fond, d'une débauche considérable de moyens et d'essais infructueux. On peut même peut-être parler de coûts exorbitants de l'évolution si, pour finir, le but ultime de ce monde en évolution était l'apparition de l'homme Eh bien, on peut dire à tout le moins qu'on a là un processus extrêmement inefficace, voire une absence de stratégie, et en tout cas un gâchis considérable. C'est du moins ce que nous suggère la lecture de la nature. Eh bien, cette lecture du livre de la nature nous invite à abandonner peut-être l'idée d'un grand concepteur, d'un grand ingénieur, voire d'un grand législateur pour dire le Dieu créateur, au profit d'une, ce que je considère comme étant une image un peu renouvelée, stimulante de la foi dans la création. Et pour cela, nous devons prendre acte de trois considérations tirées du caractère dynamique et évolutif de la nature, un peu par opposition à l'idée du stable cosmos grec, avec une vision très statique et fixiste du cosmos. Premièrement, le premier point qui me paraît significatif de ce nouveau discours, c'est la solidarité de l'homme avec la nature. Donc l'homme apparaît dans la continuité des autres espèces vivantes. Et la solidarité des espèces vivantes, entre elles et avec l'espèce humaine, nous invite sur le plan théologique à une suggestion qui serait que le salut doit être envisagé de manière non exclusivement anthropocentrique, mais peut-être dans une dimension cosmique, et que l'attente du monde à venir, puisqu'il s'agit de cela cet après-midi, concerne l'ensemble des choses créées. Être vivant, être inanimé, et non la seule espèce humaine, et ceci comme saint Paul l'avait bien exprimé, notamment dans l'Épître aux Corinthiens et l'Hymne aux Colossiens. Le second point est que la nature est génératrice de nouveautés. L'avenir n'est pas déterminé à l'avance, des choses radicalement nouvelles émergent continuellement des environnements élémentaires qui les précèdent. Alors, ceci ne signifie pas qu'il y a des interventions surnaturelles à chaque seconde, il y a un caractère propre à la nature qui a été exprimé dans la science du XXe siècle notamment, qui a donné lieu en philosophie à la notion d'émergence. La notion d'émergence s'oppose à celle de déterminisme, pour dire que des structures de vie, par exemple, des structures nouvelles, des systèmes, peuvent émerger du chaos, et ce, de manière, je dirais, presque spontanée, modulo la fourniture d'une certaine quantité d'énergie ou des circonstances tout à fait particulières et favorables, bien entendu. On peut affirmer que ce qui apparaît comme nouveau n'est pas le déploiement de ce qui était contenu en germe. C'est-à-dire que l'apparition des nouveaux nés d'aujourd'hui n'était pas contenue dans un placard céleste dans lequel on viendrait tirer les êtres à venir. C'est une nouveauté radicale, et ceci se voit également, ceci se voit dans les sciences contemporaines à travers la théorie des systèmes dynamiques, à travers les systèmes chaotiques, à travers la thermodynamique hors équilibre, etc. Mais elle se voit également à travers la place que tient le hasard dans la description de la nature. Le hasard n'est plus considéré, depuis notamment la physique quantique, n'est plus considéré comme un indice de notre ignorance, ou serait réductible à la mesure de notre incapacité à mesurer les phénomènes, ou à les caractériser. Il existe une part de hasard radical dans les phénomènes physiques, et pour nous, chrétiens, le monde qui a été voulu par Dieu n'est pas déterminé à l'avance. C'est un monde ouvert, j'aime dire ouvert à son extrémité, open-ended, disent les anglophones. Il est ouvert à son extrémité, c'est-à-dire qu'il y a tout est à faire et rien n'est garanti non plus quant à sa fin. Donc une nouveauté radicale émerge en permanence dans la nature, et ce que révèle au fond cette propriété du caractère évolutif du monde, c'est que pour une grande part, le monde n'est pas encore créé. Le monde est seulement en cours de création. Nous sommes dans le temps de la création, et nous allons voir aussi que par là même nous sommes dans le temps de l'accomplissement. Et c'est la raison pour laquelle il n'est pas insolite de relier ces deux notions, création et accomplissement. Et troisièmement, la troisième réflexion qu'on peut tirer du caractère évolutif du monde, c'est que l'histoire du monde se poursuit. C'est-à-dire que nous ne sommes pas arrivés, comme le suggère une certaine écologie radicale, à un état d'équilibre, la fameuse harmonie du monde. Les choses sont arrivées à un état d'équilibre qu'il faudrait préserver et qu'il faudrait vénérer. L'impression d'équilibre, voire d'harmonie, pour autant c'est vrai qu'il y a une véritable harmonie, une véritable beauté dans le monde, mais cette impression entre les espèces vivantes notamment, est trompeuse. Elle provient de l'échelle de temps avec laquelle on considère les événements. La succession des espèces vivantes sur Terre montre cela. Donc finalement, tout est sujet au changement. Et elle nous apprend aussi, ce caractère évolutif du monde nous apprend aussi qu'il n'a jamais existé quelque chose comme un état de perfection originel. La perfection n'est pas à l'origine, elle est à la fin. Et donc, l'évolution ne s'arrête pas avec l'espèce humaine. L'évolution continue et l'espèce humaine elle-même est en route vers post-humanité, une super-humanité, que sais-je. Et nous allons voir pour nous, dans une perspective chrétienne, en quoi consiste cette humanité. C'est Pilate qui le dit de la manière la plus éminente qui soit dans l'évangile de Jean. Il dit « Voici l'homme, voici ce qu'est l'humanité ». L'affirmation selon laquelle l'espèce humaine est le sommet de la création ne peut être entendue en un sens absolu, mais relativement à un environnement qui est l'environnement terrestre. Souvenons-nous par exemple que l'espèce néandertale, dont on sait aujourd'hui que nous n'en dépendons pas en ligne directe, qui est donc indépendante d'Homo sapiens, a disparu. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu une humanité qui a disparu. Néandertale avait les caractéristiques d'une humanité, donc de manière aussi incontestable que nos ancêtres. L'humanité peut donc disparaître, puisque cela est déjà arrivé. Le caractère évolutif du monde, dans sa dimension biologique, mais aussi dans sa dimension cosmologique, a suscité, depuis le XIXe siècle, des réactions assez contrastées. Quand je parle de dimension cosmologique, j'entends bien entendu la vie, la mort, la naissance des planètes, des étoiles. Nous savons que la matière elle-même, tout est soumis à la flèche du temps et à la finitude. Les réactions théologiques que j'appelle contrastées, je voudrais en relever trois qui me paraissent significatives du propos sur la finalité et la fin du monde. La première, c'est l'effet que cette vision évolutive du monde a eu en termes de désenchantement du monde. Le monde est désenchanté pour ceux des philosophes qui se réclament du matérialisme réductionniste, comme par exemple le philosophe américain Daniel Dennett, pour qui l'évolution est, je cite, « un algorithme aveugle, dénué de but et dénué de sens ». Donc il n'y a aucune finalité à rechercher dans l'univers, et le monde n'est qu'un radeau branlant jeté à la dérive dans l'immensité du cosmos. Nous savons que nous ne sommes plus le centre, nous vivons tous en banlieue, sur une petite planète très jeune du système solaire, dans une galaxie tout à fait quelconque, qui n'est même pas au milieu du carrefour des galaxies. Bref, nous vivons en banlieue, sur un radeau. Darwin disait dans son journal, il semble qu'il n'y ait une plus grande finalité dans la variabilité des êtres organiques ou dans l'action de la sélection naturelle que dans la direction où souffle le vent. Un terrible constat. Vous savez que Darwin a subi un traumatisme, finalement, à travers la découverte de cette théorie de la sélection naturelle. Le deuxième point que je relève, la deuxième réaction un peu caricaturale que je relève, c'est le mouvement de l'intelligent design, pour lequel il est question, mais qui me paraît significatif de ce qu'on raconte aujourd'hui aussi sur la fin du monde, et je vais y venir dans la deuxième partie, les systèmes qu'il appelle irréductiblement complexes. Donc il parle de l'œil humain, du flagelle rotatif des bactéries, un certain nombre de choses dans lesquelles on considère que c'est pas possible que la théorie, la sélection naturelle arrive à ces systèmes très très complexes sans une intervention, sans doute discrète, mais en tout cas directe, de Dieu. On est évidemment dans le cadre du dieu des bouches-trous, on appelle God of the Gaps, dans les lacunes des explications scientifiques. Donc, selon ce mouvement de l'intelligent design, qui est un peu moins grossier que celui des créationnistes, qui est quand même fortement anti-scientifique, parfois même, toujours très marqué par le fondamentalisme, en tout cas, l'intelligent design procède de manière un petit peu plus subtile, puisque l'intervention de Dieu est beaucoup plus discrète, mais en tout cas comptée comme une cause parmi les autres causes naturelles. La considération, le jugement de valeur que je faisais tout à l'heure sur le gâchis considérable les millions d'années, les espèces disparues, 95% des espèces qui ont existé à un moment donné de l'histoire ont disparu aujourd'hui, ferait plutôt penser à un unintelligent design qu'à un intelligent design. Voilà, je reviens là-dessus. Troisième caricature qui me paraît assez intéressante et encore vivante parmi certains chrétiens, qui est de justifier la théorie de l'évolution dans l'idée d'une vision élitiste et anthropocentrique de la création. C'est-à-dire que, certes, les galaxies sont nombreuses, certes, les animaux ont souffert avant même l'apparition de l'homme, certes, la mort et les massacres de l'histoire, etc. Mais si c'était pour... parce que nous le valons bien, finalement. Si c'était pour nous, si c'était pour qu'émerge la pensée quelque part dans le cosmos, eh bien, après tout... Ça valait peut-être la peine. Comment situer la foi chrétienne par rapport à cette idée? Alors, le théologien Jürgen Moltmann, que j'ai déjà cité, affirme que le Dieu de Jésus-Christ n'est pas le Dieu des vainqueurs de l'évolution, puisque nous sommes les vainqueurs de l'évolution. Nous qui sommes présents dans cette salle, nous devons notre constitution, nos capacités, nos talents... aussi modeste soit-il, aux millions de générations qui nous ont précédés, parfois dans des vies très courtes et sans doute très dures. Il dit que l'évolution n'est pas seulement une œuvre de la nature qui construit, elle est également une œuvre cruelle. L'évolution est une sorte, dit-il, d'exécution biologique du jugement du monde sur les faibles, les malades et les êtres sans qualité. C'est terrible. Alors Moltmann récuse avec force... l'idée d'un Christ qui serait du côté des vainqueurs. Et donc, il dit, il n'y a pas ce Christus selector, c'est ce Christ du côté de la sélection, si vous voulez, cruel et insensible. Il conteste cette idée. Hein. Un juge du monde et de l'histoire sans pitié pour les faibles, un producteur de vie, certes, mais que les victimes n'intéressent pas. Et en effet, ce que nous dit l'histoire, ce que nous dit l'Évangile, le Nouveau Testament, c'est que le Christ se tient du côté des victimes, de l'innocent exécuté, des poubelles de l'évolution, de ce qui reste. Et sa croix, dit Teilhard de Chardin, ne vient pas porter seulement le péché du monde, elle porte aussi les joies et les peines engendrées par ses progrès. La croix porte les joies et les peines engendrées par ses progrès. Donc Teilhard n'était pas... Un optimiste béat, comme on le présente parfois, il était conscient du drame que constitue la violence dans la création, la cruauté dans la création. Alors, ce caractère cosmique du salut pose nécessairement, selon moi, la question de la fin, la question de sa fin, puisqu'il s'agit là d'une flèche, tout comme l'Ancien Testament affirme, bon, je vais dire presque à chaque page, mais enfin, affirme très très fortement une conception de l'histoire qui est, on dit souvent, linéaire, c'est-à-dire il y a vraiment quelque chose qui se passe, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une espèce de cycle permanent. Donc la fin du monde, on l'a déjà relevé, est une notion ambiguë, puisque en français en tout cas, puisqu'elle recouvre à la fois la fin des temps, la fin de l'univers et la finalité. Alors, s'agissant de la fin de l'histoire ou de la fin de l'univers, on a tout un tas de scénarios sur lesquels je ne reviendrai pas, peut-être simplement pour dire que, parce qu'on croit, on pense toujours qu'on peut en échapper, il y a à très très long terme, sur le plan de la fin de l'univers, les fameux deux scénarios du Big Crunch ou du Big Chill. Alors crunch, ça évoque ce qui croustille, là, mais enfin, c'est le grand écrabouillement. Vous voyez, c'est, donc l'univers se rétrécirait et se récrabouillerait par effet de gravitationnel. Et puis nous avec, quoi, on va crabouiller tout ça là-dedans. Et puis le big chill, c'est l'inverse, c'est le grand froid. C'est-à-dire qu'à force à force d'expansion très, très 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 loin, eh bien, c'est la mort thermodynamique de l'univers. Alors face à ça, comment proclamer... que le temps est proche, que les lendemains chantent. Comment préparer une espérance cosmique dont on a dit que nous n'étions pas seulement, j'y reviendrai dans un instant, nous n'étions pas seulement, nous humains, convoqués par l'espérance de résurrection de Jésus-Christ. Il y a également l'ensemble de la nature. La question de la finalité, c'est cela que je voudrais vous proposer, proposer à votre méditation, c'est que nous, me semble-t-il, pour comprendre cela, nous devons prendre quelque part le contre-pied de la méthode scientifique héritée de la modernité, celle qui fonctionne depuis toujours pour faire ce que, enfin, pour les progrès technologiques et scientifiques. C'est-à-dire la méthode fondée sur la notion de causalité efficiente, où les causes précèdent les effets. Mais il me semble que ce que nous révèle la Bible, ce que nous révèle le livre de la nature, à travers ce caractère évolutif, c'est que l'important n'est pas de savoir d'où nous venons, mais vers où nous allons et à quoi nous sommes promis. L'important est dans la fin et non pas dans le commencement, comme le disent les journaux, si vous avez manqué le début. Bon, mais enfin, ce qui nous intéresse, c'est surtout le dénouement, et c'est cela sur quoi je voudrais insister. La fin du monde doit être distinguée de l'accomplissement, de même que la notion d'origine doit être distinguée de la notion de commencement. Le commencement n'est pas l'origine.